6h04, mercredi 16 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. On va faire le point sur le dossier COVID hier à Québec, conférence de presse qui rappelait pas mal les points de presse de 13 heures qui ont marqué le printemps. Essentiellement, ce que le gouvernement nous dit ce matin, Premier ministre François Legault, ministre de la Santé Christian Dubé, c'est que bien qu'il n'y ait pas une hausse marquée des cas d'hospitalisation ou des décès, la situation, selon leur évaluation, est extrêmement préoccupante. Ils sont inquiets. Inquiets de quoi? De voir cette tendance se maintenir et peut-être même augmenter dans les prochains jours en termes de cas diagnostiqués, donc des tests positifs, avec un impact sur le réseau de la santé. Je reviendrai tantôt sur ce que ça veut dire un impact sur le réseau de la santé. Hier, j'avais l'impression que M. Legault parlait à des gens déjà convaincus. De faire appel à la raison, au sens des responsabilités des insouciants et des récalcitrants, pense pas qu'ils vont atteindre la cible. Deuxièmement, dans les mesures annoncées hier, il n'y a pas grand-chose. Une fois qu'on a dit que 75 % du Québec est dans le jaune, là, de ne plus permettre aux bars de servir de la nourriture après minuit, puis de dire aux personnes âgées qui se déplacent dans une résidence, les aires communes, de porter le masque en tout temps. Peut-être que ça va aider, mais je ne vois pas vraiment ce que ça va changer. Et je vais faire une parenthèse tout de suite parce que j'en reçois beaucoup de courriels. Et parce que hier on était avec des chiffres, il y a 17 % des Québécois qui sont dans les théories du complot, d'autres parlent de 20 % peu importe. Il y a quand même pas mal de monde. Mais il faut faire attention, je pense, pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens, et je pense que dans ce 20 % c'est la grande majorité, là, qui pensent que le port du masque n'est pas nécessaire. Il y en a qui croient à ce qu'on appelle une forme d'immunité dans la communauté, et que, bref, ils ne veulent pas se faire imposer ça. C'est carrément sur la notion de masque obligatoire. Et ils ne sont pas convaincus qu'il y a une véritable pandémie. Ils sont à peu près certains que c'est comme la grippe. Et bref, ils sont sceptiques, méfiants à l'égard du gouvernement, puis ils sont méfiants à l'égard du gouvernement puis des médias sur un paquet de sujets. Et vous avez une frange, là, de cinglés, de coucous, qui sont avec le 5G, avec Bill Gates, avec les réseaux de pédophiles. C'est dans la marge. Mais, bien sûr, ils profitent de ce contexte-là pour alimenter leur théorie du complot. Qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui ne veulent rien comprendre? Tu sais, on a eu plein de cas là, de mariage. Là. Je ne parle pas, c'est pas des anti-masques nécessairement. C'est des gens qui sont un peu insouciants. On raconte ce matin une fête religieuse à Montréal, paf, des cas positifs. On parle de parties privées. Puis là, on dit aux gens, si ça continue, on va limiter à 6 le nombre de personnes pour vos rencontres. Puis dans le fond, peut-être repousser à un peu plus tard. Est-ce qu'on aura des mesures plus sévères? Je faisais le tour des journaux ce matin. Plusieurs demande que le gouvernement serre la vis. Et comment tu peux, en même temps, envoyer un message que c'est grave, que c'est sérieux, avec des mesures assez retenues? Puis on comprend que tu veux pas, je prends l'exemple de la manif, où il y a 10 000 personnes, 15 000, 20 000, peu importe. Puis on comprend, là, eux, ils manifestent pas de masque, puis ils gardent pas le 2 mètres. Tu veux faire quoi? Les ramasser un après l'autre? Là, ils vont devenir des victimes nationales. Fait que c'est sûr qu'il faut évaluer tout ça. L'impact sur le réseau de la santé est quand même important. D'autant plus que le docteur Arruda a expliqué hier que 75 % jaune au Québec, puis probablement que d'ici la fin de la semaine, on peut penser à certaines régions où on va être en mode orange, et là, il y aura des restrictions encore plus sévères. Revenons sur l'impact concernant le réseau, c'est-à-dire sur les infirmières. Les infirmières sont fatiguées. Les infirmières ont été, disons, très occupées. C'est souvent le cas aussi l'été pendant la période de vacances. Et ce matin, j'ai envie de partager avec vous un courriel que j'ai reçu d'une infirmière. Vous comprendrez que je n'irai pas identifier son hôpital. Simplement vous dire que voici sa réalité. Elle est infirmière dans une salle d'urgence. Alors, on ne donne pas de détails parce qu'on connaît la loi dans le réseau de la santé. Si elle est identifiée, elle va faire l'objet de mesures de représailles. Elle dit « Le réseau n'est pas prêt à prendre le volume de la deuxième vague. Nous faisons face à une recrudescence de l'achalandage dans les urgences et les cas sont lourds, plus lourds qu'avant la pandémie. Des patients vieillissants, des cas d'intoxication, des cas de psychiatrie et d'autres types de gens qui doivent transiger par l'urgence pour être investigués avant d'être transférés en psychiatrie ou encore des gens qui ont des problèmes cardiaques. De plus, les lits sont saturés à l'étage, donc les patients admis attendent plus de 24 à 48 heures pour obtenir un lit, donc hors la salle d'urgence. Depuis les dernières semaines, nous travaillons notre quart de travail avec deux ou trois infirmières en moins. Et c'est absolument rare d'avoir un quart de travail où tout le monde est là. Et encore une fois, la pratique du temps supplémentaire. Le personnel est épuisé, les 16 heures sont devenues une routine. Donc, c'est quand même pas banal. On apprend en même temps qu'on manque pas d'infirmières au Québec diplômées. C'est que les infirmières n'ont pas l'air intéressées à aller travailler dans les hôpitaux. Elles préfèrent se trouver des jobs ailleurs. Ça, c'était un problème assez important. Et on veut bien créer des postes, mais comment faire pour attirer des infirmières? On s'est posé la même question pour ce qui est des préposés aux bénéficiaires. Puis tantôt, je reviendrai sur les écoles. Parce que là aussi, disons qu'on manque de profs, puis on manque de personnel. Un exemple, dans le réseau de la santé, hier, il y a des infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui ont fait des moyens de pression, là, qui avaient comme objectif d'envoyer le message suivant. Il manque d'infirmières pour assurer les soins à l'unité des soins intensifs. Autrement dit, il y a des lits, il y a des patients qui devraient être là, mais on n'est pas capable de s'en occuper adéquatement. Puis on a vu la situation également à Gatineau, où on a fermé les soins intensifs 2 jours, faute de personnel. Fait que ça, là, c'est une réalité. Et si vous augmentez le nombre de cas d'hospitalisation, puis le cas de gens aux soins intensifs, vous voyez la pression qui est mise sur le réseau. En parlant de la santé, puis après ça, j'irai à l'éducation, on parle beaucoup des patients atteints de la COVID. Parlons des patients non-COVID. Il y a des gens qui attendent pour être opérés, des gens qui sont sur des listes et qui n'ont pas des chirurgies vitales, mais qui ont des chirurgies nécessaires pour la qualité de vie. Puis il y a ce qu'on appelle la détresse. C'est un monsieur qui m'écrit, son fils, 20 ans, consomme la drogue, s'est rendu dans un hôpital, je ne dirais pas lequel, pour qu'il soit identifié. Il est en détresse, il a des pensées suicidaires. Il passe 5 heures à l'urgence. Finalement, puis personne ne lui parle. Là. Il attend. Il a décidé de prendre ses papiers, est sorti de l'urgence, s'est trouvé une chambre d'hôtel, a acheté une quantité de drogue dans le seul but d'en finir. Quand on est revenu à la maison, mon fils n'était pas encore en état de tout m'expliquer. Mais il dit que finalement, il ne voulait pas rester là. Ça, ce sont des patients qu'on échappe. Et en résumé, le père dit, le système a laissé tomber mon fils. Il s'est rendu, il a amorcé des démarches. On va en discuter jusqu'à demain. Mais il faut penser à ces gens qui ne sont pas des patients de COVID, là. Puis des problèmes de santé mentale, probablement amplifiés avec le confinement qu'on a vécu dans certains cas, bien, ça vient mettre de la pression sur le réseau. Quant à l'éducation, là, on a vu évidemment l'histoire de prendre des orthopédagogues pour remplacer des profs. Beaucoup de profs quittent. Puis on pourrait se demander pourquoi tous ces professeurs décident, après un an, des fois après 2 ans, souvent en moins de 10 ans, de quitter. Et le point commun avec les infirmières, c'est les conditions de travail. Les profs qui disent on est débordés. La COVID vient en ajouter. Les classes sont pleines. Il y a des concierges qui m'écrivent en disant On parle beaucoup de salubrité, d'hygiène. Ça fait 3-4 qui m'écrivent en disant « C'est pas vrai qu'on peut faire le travail, disons, dans un contexte comme celui-là, tout seul, dans une école. T'as besoin de ressources. » Et juste pour conclure concernant les écoles, beaucoup de parents se demandent comment se gèrent les cas puis qu'est-ce qu'on fait avec les symptômes que les enfants peuvent avoir, parce qu'on sait tous que des enfants, les tout-petits, ben chaque année, le nez coule, ils toussent. Comment tu gères ça dans un contexte de COVID? On va vous donner, on souhaite en tout cas, des réponses à vos nombreuses questions là-dessus. Un mot sur quand même les autres dossiers. D'abord, parlons du bon pasteur Monette. Mario Monette et son épouse Carole Van Hout, qui ont plaidé coupables d'avoir battu leurs 8 enfants, parce que c'était la volonté de Dieu. Alors, Dieu leur a expliqué que pour faire comprendre le bon sens aux enfants, c'est le châtiment physique, corporel, puis de temps en temps aussi, une espèce de torture mentale. Tu sais, quand tu fais peur à des enfants, puis tu leur expliques qu'ils vont finir en enfer, puis toutes les espèces de symboles les plus hystériques de la religion, ben, le bon pasteur s'est servi de ça. Puis je rappelle que non seulement il a imposé ce traitement à ses enfants, mais en plus, il disait aux fidèles de faire la même chose que lui. Le dossier de l'aluminium maintenant, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les Américains, et hier on avait vraiment le discours du gouvernement fédéral, qui était le suivant, victoire pour le Canada, c'est fini les tarifs sur l'aluminium. Ce qu'on n'a pas dit trop fort, c'est que c'est un échange. Autrement dit, le Canada va devoir limiter ses exportations d'aluminium aux États-Unis. Alors, il n'y aura pas de tarifs, donc un coût supplémentaire, mais les quantités vont être moins importantes que par le passé. C'est ça le règlement qui a été conclu par le gouvernement Trudeau. En parlant du gouvernement Trudeau dans la presse de ce matin, M. Trudeau qui avait promis de planter 2 milliards d'arbres. Ça en fait, ça, des arbres. Il a promis ça durant la campagne électorale, vous en souvenez. Bilan, aucun arbre n'a été planté. Alors, ça va en prendre, disons, beaucoup pour les 9 prochaines années. Moi-même, quand il a annoncé ça, je me suis dit, voyons donc. T'annonces ça en donnant l'impression que tu es M. Vert, puis que là, tu sais, en plantant des arbres partout, dans des aires naturelles, dans des endroits privés, des programmes avec les villes, les provinces, etc. Je comprends, là, mais c'est encore là un show de boucan où c'est la même chose quand on se pavane avec des cibles dans pour ce qui est des changements climatiques, donc c'est pour réduction des gaz à effet de serre. Personne n'atteint ses cibles, jamais. Tu sais, ça a l'air très bien. Puis là, 2 milliards d'arbres. Pensez pas que c'est pas un peu ridicule. Également, la mairesse de Montréal a été frappée par une mise en demeure. Ce sont des commerçants de la rue Saint-Denis qui sont contre le réseau Express Vélo. Puis vous connaissez leurs arguments, on aura beaucoup parlé. Alors là, on a décidé d'utiliser la voix des tribunaux pour tenter d'avoir gain de cause et finalement être capable, disons, de stopper le projet, ou en tout cas, au moins, faire une pause sur ce projet-là. Un mot sur les États-Unis. Il se passe des choses quand même intéressantes. D'abord, les fameux feux de forêt sur la côte ouest américaine. On sait qu'on a eu un peu, disons, hier à Montréal, le soleil qui était couleur orange, puis des gens spéculaient qu'est-ce que c'est, puis comment on explique le phénomène. Alors, on a parlé avec les gens d'Environnement Canada, et ce sont des vents qui, en provenance de la Californie, même peut-être de la Colombie-Britannique, se sont rendus jusqu'au Québec, transportant en très haute altitude poussière. Et c'est devenu donc un élément qui colore le ciel, qui colore les nuages et qui, vu au sol, vu la planète ici, donne cette impression de couleur orange. Mais les feux continuent. Il y a au moins 25 personnes qui sont décédées en Californie cette année. Il y a plus de 3 millions d'acres, et c'est un record, là, qui ont été complètement brûlés. La forêt qui est incapable de se reproduire, si on veut. Et tout ça avec les changements climatiques, températures extrêmes et des cycles qui sont de plus en plus intenses. Ça, c'est un constat qui est réel. Puis en même temps, vous avez Sally, qui est un ouragan qui frappe. Je regardais les images ce matin, plus abondantes. Et on dit d'ailleurs que les ouragans ont tendance à passer plus lentement, mais à déverser davantage de pluie. Beaucoup de vent, plus de pluie, et que tout ça aussi serait attribuable à des changements climatiques importants. C'est ce qu'observent beaucoup d'experts sur cette question-là. Ça fait le tour de nos manchettes ce matin. On va s'arrêter là-dessus. 6h21. On retourne sur la 10, là.